Bocati, bocati. Bocati.
Bonsoir. La tribune de la presse de ce vendredi 2 septembre 2005 aborde deux sujets. La défection annoncée pendant le week-end de militaires congolais d'expression rwandophone appartenant à la 8e région militaire dans le Nord Kivu. Pourquoi ont-ils déserté? Où se trouvent-ils actuellement? Analysez et commentaires tout à l'heure avec nos confrères journalistes. Le deuxième sujet se rapporte 103 millions de dollars américains que le Conseil de sécurité a mis cette semaine à la disposition de la MONUC pour son soutien logistique au processus électoral en RDC. Le processus électoral va-t-il bientôt atteindre sa vitesse de croisière avec ce soutien logistique de la MONUC? Pour en parler, nous avons invité dans ce studio quelques-uns de nos confrères. Arnaud Zeitman, correspondant de la BBC en RDC, Claude Moukeba, journaliste à la télévision nationale. Enfin, depuis Lubumbashi dans les Katanga, Christophe Kalenge, directeur de la Radio Fontaine, et éditeur délégué de l'hebdomadaire Le Fédéral. Tout de suite, nous allons aborder notre premier sujet. L'événement s'est passé la semaine dernière, mais la presse a commencé à en parler, à en faire l'écho au début de cette semaine. Il s'agit de la désertion de militaires congolais d'expression rwandophone appartenant à la 8e région militaire dans le Nord Kivu, c'est-à-dire le 1er et le 2e bataillon mixte, ainsi que le 53e bataillon. Pour en avoir une idée, suivons d'abord le reportage que notre confrère Jean-Paul Bastila de la radio Capi Goma a réalisé à ce sujet. Mais je rappelle que ce reportage est passé sur les antennes de la radio Capi dimanche dernier.
L'information nous a été confirmée par les commandants de la 8e région militaire, le général Amissi. Plus de la moitié des soldats appartenant au 1er et 2e bataillon mixte a déserté dans la nuit du vendredi au samedi. On n'y connaît pas leur nombre exact, mais cela représenterait plusieurs centaines de personnes. Mais tous ceux qui ont déserté seraient des militaires d'expression Kinyarwanda qui ne souhaitent pas être brassés. Une autre source militaire nous a indiqué que ces éléments déserteurs ont pris la direction des Luofu dans le territoire des Masisi, après avoir réussi à désarmer leurs collègues qui ont refusé de déserter. Et puis toujours dans le Masisi, des sources proches de la 8e région militaire signalent que l'ensemble des militaires du 53e bataillon XANC basé à Mouesso a également disparu depuis jeudi dernier. Leur destination n'est pas connue jusque-là. De Goma, Jean-Paul Bastila, Radio Okapi.
Merci Jean-Paul Bastila. Quelle a été votre réaction quand vous avez suivi cette nouvelle, d'abord avec vous Arnaud Zeitman?
On a eu l'impression d'assister au nouvel acte d'une pièce de théâtre déjà connue, dont les acteurs sont connus. Dans le rôle principal, le général Laurent Nkunda, qui s'est pendu de cette longue lettre de 17 pages, menaçant de déstabiliser l'institution.
Donc vous trouvez qu'il y a un lien entre cette désertion et la lettre de Laurent Nkunda?
On remarque quand même que c'est concomitant, qu'il y a une lettre de Laurent Nkunda qui est transmise via, d'ailleurs, des proches du gouverneur, M. Jean Serufuli, à des journalistes, à la MONUC, aux diplomates. Nous-mêmes, on a pu avoir copie de cette lettre à la BBC et on s'aperçoit qu'au même moment, il y a cette vaste désertion de soldats qui étaient fidèles au général Nkunda pendant la récente...
Mais la MONUC a dit qu'il était pour l'instant difficile d'établir un lien entre cette lettre de Laurent Nkunda et la désertion de ces trois bataillons des FRDC dans le Nord Kivu.
La MONUC a surtout refusé d'authentifier la lettre de Laurent Nkunda. Ceci étant, la lettre est quand même parvenue à destination. On peut quand même, disons que les présomptions sont assez fortes pour laisser penser que c'est bien une lettre de menace signée par Laurent Nkunda. Maintenant, effectivement, on n'a pas de preuves formelles, ça faut le préciser. Mais bon, cela dit, oui, au même moment, il y a ces deux éléments. Oui, ce sont des militaires qui étaient fidèles à Laurent Nkunda pendant les années de guerre. On sait que Laurent Nkunda est quelqu'un qui avait une grande ascension sur les troupes de l'ex-ANC. On s'aperçoit qu'il y a quand même là une unité au sein, disons, de la hiérarchie, du commandement, de l'esprit de corps. Une unité que peut envier d'ailleurs le reste de l'armée congolaise. Voilà des soldats qui sont organisés, qui suivent les ordres de leur commandant, de l'homme qui les a formés, de l'homme avec lequel ils se sont battus. Et bon, cela représente effectivement une nouvelle menace pour le processus.
Voilà, Claude Moukeba, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que, je rappelle que vous êtes de la télévision nationale, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la lettre de menace de Laurent Nkunda et la désertion de ces trois bataillons des FRDC au Nord Kivu?
Je constate d'abord deux choses. La première, c'est qu'il y a difficulté, et vous le disiez tantôt, dans le chef de la MONUC, d'authentifier d'abord la lettre de Laurent Nkunda. Est-ce qu'elle vient vraiment de Laurent Nkunda? Là, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est établir le lien qu'il y a entre cette menace et la désertion de ces éléments des FARDC. Je ne suis pas en train de dire que ça ne soit pas possible qu'il y ait lien. Je me dis seulement que c'est déjà difficile quand même d'établir ça. Mais je constate aussi que depuis l'annonce de cette information, il y a comme une espèce de deux camps. Hein. Il y a deux lectures. Il y a un camp qui pense qu'il y a absolument un lien entre la menace de Nkunda et la désertion et que il faut déjà se préparer à une attaque de ce côté-là et que il faudra des mesures dures à l'endroit de déserteurs si jamais on mettait la main sur eux. Il y a un autre camp qui pense que qui minimise quand même, qui estime que non, il faut pas trop croire, faut pas envenimer la situation, c'est pas terrible. Mais moi, ma préoccupation par rapport à cet événement, elle est plutôt ailleurs. Je constate quand même, et je le disais ici la fois dernière, quand on parlait du choléra, on a dit que ces éléments étaient en partance et les cas de choléra s'étaient déclarés. Je disais, on ne savait pas si en termes de maladie, qu'est-ce qui était resté d'où, dans les sites d'où ils venaient et où ils allaient. Et à ce jour, comme vous devez le savoir, on dit qu'à Bunia, où les éléments de la 4e brigade étaient amenés à Bunia, dans le camp Rwampara, je crois,
Oui.
les conditions de vie sont éminemment précaires, sans eau, sans nourriture, sans sanitaire. Alors,
Et qu'est-ce que cela a à voir avec la désertion
ah mais
des
on
militaires?
peut se poser la question sous le plan purement humain. Est-ce que les militaires, n'est-ce pas parce qu'on dit que ceux qui sont partis, l'explication autrement on dit, ils ont refusé le brassage. Par exemple, comment voulez-vous, sous le plan purement humain, je ne suis pas sur le plan politique, comment voulez-vous que quelqu'un qui sait, par exemple, que là où ils vont mourir et qu'il y aille,
Ils vont mourir de faim.
par exemple, on dit que là où ils ont été entassés, aujourd'hui à Bunia, à près de 2 800 éléments, n'est-ce pas, ils sont là, sans eau, sans nourriture et tout ça. Sur le plan humain, il y a quand même, comment dire, l'instinct de survie. On peut fuir. Donc, je voulais seulement dire qu'il faut que la hiérarchie militaire et le gouvernement mettent d'abord ces gens-là dans les conditions, et puis pour éviter, pour couper court au prétexte. Parce qu'à ce jour, personne n'est rentré, comment dire, en contact avec les déserteurs. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont partis. Et là, nous ne faisons que des supputations. Ben, il faut quand même les faire, les supputations. Je dis, moi, pour terminer, que je ne sais pas établir le lien qu'il y aurait entre la menace et la désertion. Et je ne sais pas non plus, comme la MONUC d'ailleurs, identifier, comment dire que la menace vient de Laurent Kunda. Donc, voilà, il n'y a que des supputations jusqu'au maintenant. Voilà.
Christophe Kalenge, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes directeur de la radio Fontaine. Est-ce que vous établissez un lien entre les conditions sociales des militaires et cette désertion, comme l'a souligné aussi notre confrère Claude Moukeba de la télévision nationale ici?
Pas forcément. Mon point de vue se situe un petit peu ailleurs. Je constate qu'il y a une curieuse coïncidence. D'abord, la sortie de l'ombre, ou plutôt du silence, du général dissident ou du général déserteur, ça dépend de la terminologie, Laurent Kunda, qu'on disait au Rwanda désarmé et cantonné, parce que le Rwanda l'a affirmé encore il y a tout récemment, qu'on lui a accordé l'asile politique, ou qu'on le considérait comme demandeur d'asile
Non,
politique
non, ça
parce
c'est
qu'il
le
était
colonel
désarmé.
Moutebouci.
Bon, Moutebouci ou Laurent Kunda, ils font partie du même groupe, donc, et leurs militaires. Je constate cette curieuse coïncidence. Je constate également la curieuse coïncidence avec le séjour, le tout récent séjour du vice-président Azarias Roubéroy à l'Est dans le cadre du lancement des opérations d'enrôlement, est-ce pour dire, disons, contester ou plutôt voler la vedette à la direction politique du RCD, que cet ancien officier de l'armée du RCD est sorti de sa réserve? Je constate cette curieuse coïncidence, mais également une curieuse coïncidence avec les désertions massives dans l'armée. Ce n'est pas tout à fait anodin. Je crois qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas être assez, disons, assez instruit pour faire ce petit crochet-là. On ne peut pas s'empêcher ces rapprochements. Pourquoi seulement avoir attendu le moment des désertions pour faire une si fracassante déclaration qui nargue les institutions? Moi, tout simplement, je comprends que dans ce pays, des individus peuvent se réveiller en matin et mettre en danger la vie de toute une nation en paralysant, ou plutôt en effrayant les animateurs des institutions au plus haut niveau de l'État et du pays. C'est là la coïncidence que je constate.
Voilà.
Quant à mettre en doute, là je comprends qu'il s'agit d'un langage diplomatique quand la MONUC ne veut pas faire ce lien-là. C'est peut-être là une précaution diplomatique tout simplement. Question d'avoir, c'est que ce qui peut en arriver.
Oui, Arnaud Zeitmann.
Oui, d'abord, concernant la MONUC, moi ce que je trouve un peu dommage concernant la MONUC, c'est que la MONUC, qui est pourtant déployée à Kanyabayonga depuis les événements du mois de décembre, n'a pas été en mesure de donner des chiffres concernant les désertions qui pourtant, à en croire le général Amissi, commandant de cette région militaire, ont eu lieu parmi les troupes des dissidents, enfin des hommes qui avaient refusé d'être brassés, déployés à Kanyabayonga. La MONUC est sur place, c'est une toute petite localité, malheureusement on n'a pas eu de chiffres.
Mais c'est à la MONUC de donner des chiffres ou bien c'est au FRDC? Parce qu'il y a eu désertion à Rwindi, il y a eu désertion à Kanyabayonga et à Mweso dans le Masisi, donc... Il n'y en a
c'est
pas eu de à Kanyabayonga.
C'est une mission dont la première tâche est l'observation. C'est vrai que la MONUC n'a pas à ses stratégies, n'est pas obligée d'informer les journalistes sur tout ce qui se passe dans le pays. On ose espérer que en coulisses, elle mène des bons offices pour s'assurer que les hommes qui ont déserté rentrent dans le rang, pour s'assurer que les institutions continuent, puisque c'est quand même ça son mandat. Maintenant, concernant les autorités congolaises, on remarque quand même que les autorités ici, le gouvernement est assez mal à l'aise concernant le dossier Laurent Nkunda. On a demandé la tendance proche du président Kabila à demander son arrestation verbalement. On se rappelle qu'après la tripartite à Kigali, il y a maintenant près de 2 semaines, Monsieur Nkunda, ambassadeur itinérant, avait affirmé qu'il allait saisir officiellement les autorités rwandaises, suivant ainsi les recommandations du Conseil de sécurité d'ailleurs, de groupe d'experts, disant voilà, il faut mettre fin à ce problème, que la RDC saisisse officiellement le Rwanda pour demander l'extradition de Monsieur Nkunda, voire de Monsieur Mutebutsi. Maintenant, on s'aperçoit en revanche que le ministre de la Défense, Adolfo Nusumba, affirme pour sa part, lui-même membre du RCD, affirme pour sa part que bon, il faudrait que M. Nkunda rentre dans le rang, qu'il prenne contact avec la hiérarchie militaire. Lui-même, M. Nusumba, déclarait pas plus tard qu'hier, bon, moi, en tant que ministre, je ne peux pas vraiment m'immiscer, c'est la hiérarchie militaire à son règlement. Mais on s'aperçoit quand même que le parti pris est différent, d'autant plus que M. Nusumba, et ça c'est le deuxième volet, M. Nusumba a affirmé que la désertion est terminée, que tous les militaires sont rentrés dans le rang. Par contre, M. Gonda, pas plus tard qu'aujourd'hui, affirme que la désertion continue et il accuse même le gouverneur du Nord Kivu, M. Serufuli, d'être en complicité, en intelligence avec M. Nkunda, d'avoir tenu des réunions avec les rwandophones dans le Nord Kivu. Bon, on n'a pas pu contacter pour l'instant M. Serufuli pour le faire réagir, donc c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a des tendances très divergentes au sein du gouvernement de transition d'Union nationale et que le dossier Nkunda, la simple apparition du dossier Nkunda, de cet acteur, fait ressortir au grand jour ces différences, ces divergences au sein des différentes tendances du gouvernement.
Claude Moukeba, est-ce que, comme vient de le dire Arnaud Zeitmann, tant qu'on ne résoudra pas le problème de Laurent Nkunda, vous pensez que les désertions vont continuer ou bien les problèmes au sein de l'armée vont continuer?
Le problème, sûrement, ils vont continuer parce que, quand même, la question, Laurent Kunda, quand on parle de Laurent Kunda, ça veut dire insécurité de ce côté-là. Et si le Congo ne se met pas d'accord avec le Rwanda et si le Rwanda n'accepte pas de l'envoyer par ici pour qu'il soit traité, pour qu'il soit jugé, je crois que le problème restera quand même entier parce qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'il fait dans l'entretemps, où est-ce qu'il est et tout ça. Et donc, quand on a un élément comme ça incontrôlé, je crois que ça va tout le temps créer quand même l'insécurité de ce côté-là.
Voilà. Nous revenons à vous, Christophe Kalingé. Vous êtes en ligne à partir de Lubumbashi. Comment vous interprétez cette cacophonie au sommet de l'État chaque fois que le dossier de Laurent Kunda est évoqué?
La cacophonie, personnellement, je pense que c'est une monnaie d'échange, hein, savamment entretenue par les acteurs en présence. Vous savez qu'à l'approche des élections, tout le monde a tendance à donner les pions aux autres par rapport au camp Kabila et le RCD, naturellement. Le RCD a tout intérêt à jouer sur cet aspect de Laurent Kunda, naturellement, parce qu'évidemment, le Rwanda est derrière, derrière tout ça. D'abord, il y a les enjeux internes au Congo, et puis relatif au Grand Lac tout entier. Il y a le problème quant aux enjeux internes au Congo, c'est que les partis en présence veulent naturellement se positionner. Pour le RCD, il ne peut pas condamner naturellement fermement disons, la position de Laurent Kunda. C'est ce qui justifie cette espèce de laxisme dans les propos du ministre Adolphe Moussumba, qui est de la même composante que l'ancienne composante de Laurent Kunda. Mais pour le ministre Théophile Bemba, par exemple, qui est du camp de Joseph Kabila, eh bien, il a semblé montrer un tout petit peu de fermeté par rapport à ça. Mais moi, je trouve...
Est-ce que c'est rassurant, au sommet de l'État, une telle cacophonie face à des problèmes d'ordre sécuritaire à la veille des élections?
Ça ne rassure personne, d'autant plus que les enjeux sous-régionaux viennent se dresser là-dessus, parce qu'il y a le Rwanda qui a l'affaire des FDLR et des Interahamwe à l'Est, eh bien, pour jouer la monnaie d'échange, eh bien, on crée le problème de Laurent Kunda. Comme ça, c'est embrasé de l'intérieur le Congo. Comme ça, on n'aura pas besoin de chasser de force les Interahamwe et les FDLR pour qu'ils rentrent au Rwanda et constituer une sorte de menace à l'intérieur du Rwanda.
Voilà.
Eh bien, on crée les problèmes pour créer diversion. Alors ça ne sécurise personne au sommet de l'État. Je crois que les acteurs politiques auraient tout intérêt à trouver de solutions et le plus rapidement possible à ces problèmes si on voudrait bien aller vers des élections apaisées et opposables à tous, comme le disait la semaine dernière Arnaud Azetman.
Voilà, Claude Moukeba.
Oui. En fait, je voudrais embrayer parce que si vous regardez la dernière intervention de Darnan, il le disait, et moi je le disais avant, c'est en fait ce que vous dites, au sommet de l'État, il y a cacophonie. Je disais qu'il y a deux camps. Il y a deux camps, il y en a qui prennent la fermeté, Christophe le disait tantôt, par exemple le ministre de l'Intérieur Théophile Bemba, il y a le ministre Nosumba qui plutôt apparemment très conciliant. Donc il y a ces deux camps, mais apparemment le soubassement des actions des uns et des autres, le soubassement est plutôt politicien. C'est comme ça que lors de la première intervention, je disais, par rapport à tout cela, parce que je considère que les prises de position, la lecture qu'ils font, ils le font avec des lunettes politiciennes. Chacun selon sa composante, on passe à côté de l'essentiel, par exemple. C'est comme ça que je faisais référence aux conditions de vie de ceux qui ont été brassés, qui sont amenés. À la limite, on ne s'en préoccupe pas, mais on lit tous les événements qui arrivent avec des lunettes plutôt politiciennes et électoralistes.
Arnaud Zeitman.
Oui, je voulais ajouter que effectivement il y a deux camps, mais il y a aussi il faut noter quand même des évolutions. On remarque que le général Kunda et le général Gabriel Amissi étaient ensemble au sein du RCD. Le massacre, ils avaient été d'ailleurs pointés du doigt lors du massacre de Kisangani le 14-15 mai 2002. Et aujourd'hui, c'est Tango Faure qui se fait appeler à présent Gabriel Amissi, qui, disons, dénonce le comportement des troupes de Nkunda. Donc, je veux dire, il y a effectivement des camps opposés, antagonistes.
Au sein même de la même composante.
Oui, mais ces camps évoluent, je veux dire, avec maintenant la mise en place de l'armée, il y a quand même des militaires qui entrent dans le rang. et qui se plient à la hiérarchie, à la discipline de leurs fonctions, et donc abandonnent un peu, disons, les amitiés, les intérêts
Le côté
stratégiques
rebelle.
politiciens.
Et ça, c'est rassurant pour l'armée, des militaires qui n'obéissent pas aux politiques, mais qui, à leur hiérarchie
Bah, je
militaire, peu
pense que
importe la composante d'où ils viennent.
en principe, c'est quand même ça l'armée. Il s'agit d'une armée apolitique. Il ne s'agit pas d'avoir des militaires au pouvoir dans ce pays. C'est quand même ça le principe qui guide en principe, disons, l'armée. Et pour que la politique, que les militaires et les politiciens soient séparés, effectivement, c'est important que les militaires soient en caserne et puis que les hommes politiques soient des civils. Il me semble que c'est quand même ça les fondements de la démocratie.
Claude Moukeba.
On peut donc souhaiter qu'il y ait de plus en plus déjà des militaires comme le général Amissi, hein, comme dont il parlait tout à l'heure, qui, dans sa fonction, ne regarde plus les accointances avec les partis politiques, mais plutôt la discipline militaire.
Et puis,
Voilà, Arnaud Zeitman.
ce qu'on peut noter aussi, si à moi d'ajouter encore, c'est que, disons, ce qu'il y a aussi derrière ça par rapport à Nkunda, c'est que la logique a en quelque sorte changé depuis l'arrestation des leaders d'Ituri. On a la logique qui prévalait jusqu'alors, c'était que les anciens rebelles puissent être amenés à une table de négociation et puis s'intégrer dans un processus, disons, politique, abandonner les armes en échange d'un morceau de pouvoir. Depuis l'arrestation des leaders en Ituri, la logique a changé. Et donc le général Nkunda a sans doute peur du futur qui peut se présenter à lui. Lui-même a refusé de venir prendre son poste de général ici à Kinshasa, et donc il est quand même dans une situation de fuite en avant. Alors la solution, bon, c'est aux acteurs ici de la trouver, mais effectivement, vu ce qu'il représente, on l'a bien vu au mois de décembre, disons les militaires, la tentative de militaires d'attaquer les militaires rwandophones opérée par les forces d'armée gouvernementale, ceux qui avaient refusé le brassage, s'est soldée par un échec retentissant. Donc je pense qu'il s'agit aussi pour les autorités ici de trouver une sorte de solution pour que, mais c'est important, je finis là-dessus, je sais que vous voulez passer au thème suivant, mais parce que, bon, ça c'est un nouvel acte, c'est un nouvel acte de cette pièce, mais le danger, si le problème persiste, s'il n'est pas réglé, c'est que l'acte final soit posé au moment des élections ou de la proclamation des résultats, et que cette carte Laurent Nkunda et ses hommes qui lui sont fidèles et sa capacité de déstabilisation soit sorti dans le jeu à ce moment-là et soit mise sur la table à ce moment-là dans le Nord Kivu par exemple et mettre fin à tout le processus électoral, à la proclamation des résultats et joue vraiment un rôle néfaste sur les
Voilà.
résultats. Donc je pense que c'est important que les hommes politiques ici trouve une solution rapidement à ce problème.
Rapidement, nous avons, avant de terminer le premier thème, nous avons quelques questions des auditeurs que je demanderai à ce que mes confrères puissent essayer d'y répondre rapidement en une minute. Maurice Galandier de Kinshasa, qui nous a envoyé une question par SMS, dit ceci: avec une telle désertion, l'armée sera-t-elle unifiée avant les élections? Bienvenue Uvira, au Nord Kivu, qui nous envoie également une question par SMS. N'y a-t-il pas de lien entre la visite du vice-président Azarias Rubéroi et cette désertion? Il y a Jules de Goma dans le Nord Kivu qui nous envoie également sa préoccupation par SMS. Pourquoi seulement une fuite d'un bataillon rwandophone? Ne trouvez-vous pas là une prise de conscience? Bati du Nord Kivu par SMS nous envoie son opinion. Nous pensons que les déserteurs agissent de concert avec certains politiciens du Nord Kivu. Dany Chilembi de Bunia dans la province orientale par SMS à tous les invités. Le déploiement massif des militaires de Goma n'est-il pas un moyen d'exposer la région du Nord Kivu qui est très fragile en matière sécuritaire vis-à-vis de l'étranger? Je ne sais pas si rapidement vous pouvez répondre en une minute. D'abord, vous, Christophe Kalenge, rapidement en une minute, une question et on passe au second thème.
Très rapidement, j'ai noté avec intérêt la question qui dit évidemment, il y a accointance où on doit mettre un tout petit peu de rapport entre la visite du président, du vice-président Azarias Rubéroi et les désertions, et que également il y a accointance entre ces mutins ou ces frondeurs de Kunda avec les politiciens de Kivu. Je crois qu'il y a une certaine exacerbation de l'aile dure du RCD qui fait qu'il y a tout ça. Mon point de vue, c'est celui-là, et je crois que c'est ma lecture, celle-là. C'est l'exacerbation de l'aile dure du RCD qui veut monter les enchères face aux autres camps à l'approche des échéances électorales.
Oui, une question. Vous répondez peut-être à une question rapidement, Arnaud Zeitman.
Oui, par rapport à la visite de Rubéroy, moi je pense que le vice-président Rubéroy est dans une situation un peu inconfortable, un peu fragile depuis le début. C'est quelqu'un qui croit au processus en cours, mais au sein de son parti, il a des opposants, donc sa base n'est pas très solide. Peut-être que ce qu'on peut regretter aussi, c'est que les autres partis, la partie présidentielle, si on peut dire, la partie PPRD, n'est pas tendu la main de manière un peu plus franche vers M. Rubéroy, vers le RCD. S'il s'agit d'apaiser les esprits, s'il s'agit de rétablir la paix ici, ça demande aussi des concessions de part et d'autre, ça demande aussi de rassurer une communauté.
Et comment le parti présidentiel n'a-t-il pas, dans quel sens, il n'a pas tendu la main?
Il y a des élections. Écoutez, on sait très bien qu'on se dirige maintenant en principe vers des élections, que l'assise du RCD au niveau national ne semble pas énorme. Donc, le RCD, que va devenir le RCD après les élections? C'est quand même une question qui peut tracasser certains officiels du RCD. Donc, une manière de les rassurer peut-être, c'est de créer de nouvelles alliances, de nouvelles coalitions pour que les gens s'y retrouvent aussi et puissent être rassurés au sein de la République.
Claude Moukeba, une question peut-être rapidement.
La première, justement, la réunification, c'était la première question avant la fin du processus de transition. Je crois que c'est difficile. C'est difficile d'abord, même avant la désertion, il était difficile et les officiels le disaient très souvent qu'on ne pourra pas. Il ne faut pas attendre que l'armée soit totalement réunifiée et tout cela avant la fin de la transition. C'est un processus qui devra se poursuivre même après. Donc, ça, c'est une difficulté qui vient s'ajouter aux d'autres difficultés déjà qui existent d'ordre logistique, politique et tout cela. Donc, il faut déplorer qu'à côté de tout cela, cette fois-ci, on a des désertions. On brasse et les gens partent, ça veut dire que c'est un travail pour rien, à la limite.
Voilà, je sais que mes confrères ont encore beaucoup de choses à dire, mais le temps nous imparti est minime. Passons directement au second sujet. Le Conseil de sécurité a décidé cette semaine de mettre à la disposition de la MONUC un montant de 103 millions de dollars américains qui manquaient au budget de la CEI pour un soutien logistique à ces opérations. Mais avant de décortiquer ce deuxième thème, suivons d'abord ce qu'en dit M. William Lassiswing, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies RDC. Il est au micro de notre confrère Paul Kaboba.
Bon, selon ma connaissance, le Conseil de sécurité est plus ou moins d'accord sur un projet de résolution, mais parce qu'il y a certaines procédures administratives qui doivent être respectées, et il ne serait pas possible de voter la résolution avant le premier 10 jours du mois de septembre, mais c'est dans une bonne voie. Ça prévoit de l'autorisation pour le MONUC de transporter les matériaux électoraux partout dans le pays. Mais entre-temps, on nous a accordé la moitié de ce qu'il faut pour cela, et je suis maintenant de bons espoirs pour cette somme de l'argent.
Cette moitié, c'est combien à peu près?
50 millions.
Christophe Kalenge, je rappelle que vous êtes directeur de la Radio Fontaine et vous intervenez à partir de Lubumbashi au Katanga. Est-ce que c'est un coup de pouce que les Nations Unies viennent de donner à travers ce financement aux opérations de la CEI sur le terrain?
Effectivement, c'est un grand coup de pouce aux opérations d'enrôlement et au processus électoral, d'autant plus que les alibis qu'on trouvait chaque fois assez facilement en disant « bon, il n'y a pas d'argent, la communauté internationale ne s'est pas exécutée en donnant ses promesses et tout », je crois que les politiciens n'auront plus ces alibis-là à avancer. Dernièrement, il y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai suivi sur une radio locale ici à Lubumbashi un responsable d'un parti actuellement au pouvoir, faisant partie des institutions de la transition, un responsable d'un parti donc ici à Lubumbashi déclarait ou semblait mettre sur les dos de la MONUC l'échec, disons pas l'échec, ou disons les difficultés que connaît que connaît la CI au Katanga dans le déploiement des kits et tout et tout. Il semblait dire que bon, parce que la MONUC n'a pas mis le paquet, et ainsi de suite. Je crois que ça, ça viendrait couper court à ces gens d'Alibi et couper l'herbe sous les pieds des gens qui trouvent toujours des excuses parfois infondées.
Arnaud Zeitmann, oui, est-ce un coup de pouce
pense que Christophe Kalenge est vraiment bien placé parce qu'on se rend compte dans une province comme celle du Katanga, malgré sa richesse, surtout pour la partie méridionale de la province en termes miniers, il y a quelques routes qui sont tout à fait excellentes, notamment entre Lubumbashi, Likasi, jusqu'à Kasumbalesa. Mais dès que vous montez plus vers le nord, on se rend compte que la province est dans un abandon absolument total. On se rend compte que la route qui va de Lubumbashi à Mitwaba est dans un état totalement impraticable. On l'appelle d'ailleurs la route de l'enfer, des villages brûlés partout, l'armée n'y est pas, ou l'armée, disons, à présent, l'armée congolaise a une faible présence sur place, la MONUC n'y est pas, et les gens vivent.
Dans le nord de la province du Katanga.
Oui, bien sûr, dans le nord de cette province. Donc, comment tenir des élections et un processus d'enregistrement dans un tel état de dénuement. Et
en plus, il y a aussi de l'insécurité avec les Maïmaï.
Et je pense que ce qu'il faut saluer, c'est l'annonce aussi faite aujourd'hui même par le porte-parole militaire de la MONUC, selon laquelle 40 unités militaires de la MONUC vont être déployées à Kolwezi. Et à partir de là, ils vont sécuriser les kits électoraux et aider à leur acheminement sur le terrain. C'est quand même déjà un début. On voit que la MONUC s'implique dans le processus. Maintenant, c'est un soutien logistique que la MONUC apporte à ce processus. Maintenant, ça crée aussi des questions. S'agit-il d'un soutien logistique? S'agit-il d'un soutien politique? S'il y a des dérapages dans le processus à un moment ou à un autre, jusqu'où ira le soutien politique de la MONUC à ce processus qui est, disons, accepté par une partie de la population? Mais c'est encore pour l'instant, c'est difficile de jauger qui en veut, qui n'en veut pas. On sait qu'un parti important comme l'UDPS le rejette. Donc il y a quand même on sent que la communauté internationale est vraiment derrière ce processus, mais c'est un processus qui concerne les Congolais, donc c'est surtout aux Congolais à l'accepter et à l'approuver.
Claude Moukeba, soutien politique ou soutien logistique des Nations Unies au processus électoral en cours, à travers ce don d'argent, disons, cette disponibilité d'argent?
La nuance est quand même très difficile à opérer, si c'est un soutien politique ou en même temps politique et logistique, mais il est quand même logistique, ça c'est clair. Mais je voudrais seulement dire que à propos d'argent, on a quand même parlé beaucoup, très souvent des sommes. C'est pas la première fois qu'on va accorder de l'argent au Congo pour le processus électoral, et très souvent les gens sont venus ici, vous allez vous rappeler que à côté de ces 50 qui sont déjà donnés, on attend la suite. Louis Michel était aussi ici, il a parlé d'argent. Et pour le Congolais moyen, je crois que parfois très souvent des chiffres, des gens qui viennent et qui disent, mais après, quand on se trouve devant des difficultés, on dit qu'on n'a pas suffisamment de moyens, et Christophe Kalenge le disait tantôt, que ça peut couper l'herbe sous le pied des gens qui expliquent tout par la faute de la MONUC qui n'a pas
de... Vous voulez dire par là que bientôt les opérations de la CEI sur le terrain vont prendre une vitesse de croisière, par exemple l'enrôlement?
Non, je ne suis pas tenté tout de suite de dire ça. Je crois que ça va apporter quand même quelque chose, mais au-delà de cet argent, je vous dis que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'argent. Mais quand on parle d'argent ici, je ne sais pas. C'est comment la MONUC a perçu cet argent. C'est un liquide, c'est des espèces et tout ça. Parce que ça ne vous échappe pas que sur le plan, dans les structures internationales, là, il y a quand même des opérations très lourdes.
Monsieur Swing a dit dans cette interview avec notre confrère Paul Kaboba que 50 millions de dollars avaient déjà été donnés à la MONUC pour lui permettre de transporter, par exemple, le matériel de la CEI.
Oui, mais c'est déjà bon. Si ça passe par la MONUC et que la MONUC peut déjà travailler, je crois que ça va apporter un plus quand même au processus électoral, mais il va sans dire qu'il y aurait d'autres problèmes quand même pour donner suffisamment ce coup de pouce-là. C'est l'aspect politique, allons le soulever tout à l'heure.
Christophe Kalenge, vous pensez qu'avec ce soutien logistique de la MONUC aux opérations de la CEI pourra récupérer le temps perdu parce que dans certains endroits, les opérations d'enrôlement ne marchent pas du tout bien, il y a des kits qui se perdent, qui sont volés ou qui n'arrivent pas à temps, ou c'est le personnel qui n'est pas très très bien géré. Qu'est-ce que vous en pensez?
En partie, si la bonne foi s'y ajoute, hein, pourvu qu'il y ait de la bonne foi dans les chefs des responsables à divers niveaux. J'étais en train de le dire tout à l'heure. Je disais que, naturellement, c'est une paire de manches que de donner de l'argent, mais c'en est une autre que de suivre, que de savoir que ce pourquoi cet argent a été destiné, ça a été accompli. Il faut que la MONUC ou la communauté internationale mette des circuits ou des mécanismes tels qu'il faut s'assurer que cet argent arrive à destination et ce pourquoi il a été affecté. Parce que déjà au Katanga, ici, il y a des véritables problèmes jusqu'au moment où nous sommes en train de débattre ici. Il y a certains opérateurs de saisie qui n'ont jamais perçu même pas un seul rond de leur prime qui leur est allouée, voyez-vous. Il y a beaucoup trop de choses encore, parfois qu'on ne peut même pas dire sur les antennes ici, mais alors il faut que la MONUC s'implique aussi en faisant par exemple le suivi pour qu'on soit sûr que cet argent arrive à destination, autrement il y aura des gens qui vont toujours s'arranger pour que cet argent tombe dans leur poche et qui continuent à construire des maisons, des villas à travers la ville. Et quand vous circulez dans les rues de Lubumbashi, mais c'est devenu un chantier partout.
Arnaud Zeitman.
Oui, ce que je voulais ajouter sur cette, disons, cette idée de soutien logistique ou soutien politique, s'il y a un soutien logistique, c'est qu'il y a un soutien politique, et un soutien politique à un processus.
Qui peut être très mal perçu de la part d'une frange de l'opposition qui est en dehors des institutions, ça serait peut-être un appui de la communauté internationale à une seule partie.
Bah écoutez, c'est pas un appui à une seule partie, c'est un appui à un processus. S'il y a une frange qui n'accepte pas le processus, encore faut-il qu'elle démontre que ce processus n'est pas un processus démocratique. Pour l'instant, l'UDPS n'a pas été capable de démontrer cela. L'idée de l'UDPS, c'est de démontrer par son autorité, son aura supposée sur une partie de la population. L'UDPS demande le boycott, donc quand même une question qui pourrait démontrer aux yeux de tous le fait que le processus est accepté ou non par les Congolais, c'est la question de la participation. Et là-dessus, on s'aperçoit quand même qu'il y a un peu des ambitions qui ont été revues à la baisse. On parlait d'une estimation de 28 millions d'électeurs dans un pays comme le Congo qui compte 60 millions d'habitants. Maintenant, le président de la commission électorale indépendante, M. Malou, affirme qu'il s'agissait en fait d'une d'estimation budgétaire, donc c'est le nombre d'électeurs maximum pour obtenir le budget nécessaire pour l'organisation des élections. Donc déjà, il a semble-t-il revu ses ambitions à la baisse. On sait qu'il y a à peu près 7 millions d'électeurs pour l'instant qui se sont enregistrés alors que le processus est en cours depuis plus de 2 mois et qu'il reste seulement 1 mois en principe. Et là, le président de la commission électorale indépendante soutient le processus qu'il est là pour diriger, si on veut. Mais maintenant, ce qui est un peu étonnant, c'est que monsieur le commissaire européen Louis Michel, qui était ici, lui-même a aussi revu ses ambitions à la baisse. Il dit, bon, moi, je serais très satisfait s'il y a 15 millions de participations.
Et vous pensez que le chiffre approximatif normal qui peut satisfaire, rendre ces élections crédibles, ça serait combien? 10 millions d'électeurs ou, je sais pas, 20 millions, écoutez, 30 millions?
Je pense qu'il faut être logique. Si on fait des estimations pour obtenir un budget au départ, c'est que ces estimations reposent sur des statistiques, sur des chiffres, et qu'on se dit, voilà, il y a 28 millions d'électeurs dans ce pays.
Si on fait longtemps qu'il n'y a pas eu de recensement dans ce pays.
Il y a eu un travail qui aboutit à 28 millions, donc ça veut dire... Ou alors, il y a eu du sérieux ou il n'y a pas eu. Ouais. Même s'il n'y a pas, ça fait longtemps qu'il y a eu recensement. Mais il y a un travail de la CI qui a parlé d'un chiffre, c'est-à-dire que c'est sur base d'un travail qui a été fait quand même.
Ouais. Sinon, c'est quoi? Sinon, on dit un chiffre comme ça juste pour avoir l'argent.
Et oui, qu'est-ce que vous en pensez, Kalenge, Christophe Kalenge, que la CEI a surestimé ces chiffres ou qu'est-ce qui se passe d'après vous?
Il y a eu un amateurisme dans l'organisation de tout ça. Finalement, on avance d'un pas, on recule de 2 pas. Finalement, on ne comprend pas à quel jeu joue la CEI. Personnellement, mon opinion, je l'ai toujours dit, même dans d'autres rencontres avec des amis, je l'ai toujours dit, la meilleure solution dans ce pays aurait été qu'on confie à l'organisation des élections à la communauté internationale, la MONUC, à la logistique partout. La MONUC aurait pu faire un travail sérieux et crédible. À défaut, on aurait confié le travail à la Fondation Carter ou à d'autres organisations internationales qui sont passées partout où il n'y a pas eu de contestation. Pourquoi avoir confié l'organisation à des amateurs qui finalement, maintenant, semblent déjà avouer leur impuissance? C'est ça le problème. Maintenant qu'il y a ce problème-là, moi je pense que la CEI avait surestimé des chiffres...
Rapidement, parce qu'on est presque à la fin de l'émission.
Oui, pour... pour gonfler les budgets, hein, ou alors elle n'a pas tenu compte de certains paramètres. C'est déjà là une sorte de manipulation, hein, et parce qu'on a entendu parler de on gonfle à gauche, on dégonfle à droite, il y a là un problème. Et à ce rythme, on risque d'arriver à des élections qui ne sont pas opposables à tous.
Arnaud Zaitman, si les chiffres sont en deçà des prévisions, vraiment en deçà des prévisions d'électeurs potentiels de la CE, vous pensez que les élections vont au Congo vont perdre une certaine crédibilité?
Écoutez, s'il y a des élections où on s'aperçoit en définitive que 20% de la population ou 30% de la population concernée a participé, c'est que ça serait quand même un scrutin qui peut être critiqué. On peut se dire, bon, finalement, ceux qui ont boycotté le processus ont obtenu le soutien d'une partie importante de l'électorat. Le problème, c'est qu'à présent, on est dans une confusion totale. On ne s'entend plus sur les chiffres. 28 millions, c'est devenu 15 millions. Peut-être que dans un mois, on dira, c'est 8 millions, c'est 10 millions, ça sera combien? Donc là, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu inconséquent. Et c'est vraiment dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas eu peut-être un recensement d'abord pour qu'on sache combien il y a d'électeurs et qu'on s'attaque ensuite à la question du processus électoral.
Recensement général de la population?
Bah, écoutez, oui.
Rapidement. Voilà, Claude de Moukeba, ce sera à vous le mot de la fin.
Oui, à propos des chiffres, justement, je disais, logiquement, on ne devrait pas rester sous les chiffres, mais parce qu'il y a un chiffre qui a été avancé par la CI et qui, à ce jour, ne pourra peut-être pas, je crois, il y a peu de chances qu'on arrive à 28 millions. Et Louis-Michel dit que même avec 15, on peut y aller. Ça pose quand même un sérieux problème. Que pour les premières élections, comme on dit, après 40 ans, 45 ans, les premières élections, ce n'est pas ça que l'on voit ailleurs généralement. Quand il s'agit des premières élections, les gens vont vraiment à masse. Et que pour une fois, on arrive avec un chiffre assez réduit, je crois que ça va quand même entamer sérieusement le crédit des élections elles-mêmes.
C'est la fin de cette tribune de la presse, comme c'est le cas chaque vendredi. La désertion des militaires des FARDC au Nord Kivu et les 103 millions de dollars disponibilisés par le Conseil de sécurité pour le soutien logistique de la MONUSC aux opérations électorale, tels étaient les deux thèmes abordés avec nos confrères journalistes. Au revoir et à lundi prochain pour une autre édition de Dialogue en Congolais.
Okapi, okapi.